situations exceptionnelles et à des moments exceptionnels. Donc, sur quoi se fonde-t-il par rapport à Ramban pour avancer que c'est possible dans certaines conditions?
Mais en fait, ce qu'on remarque dans la lecture de Ramban, c'est qu'il ne considère pas tellement la situation. Ramban a l'air d'être plus sur le principe. Le fait qu'il faut respecter la parole de Jacob à son fils et que la royauté doit s'exercer à partir de l'aîné David. Il ne prend pas en compte le contexte pour adoucir un peu la lecture stricte du texte de la Torah. Alors que le rap contemporain sont sur une lecture, générationnelle, et le rap sur une lecture contextuelle de ce que les Maccabées ont fait en prenant le pouvoir. Mais peut-être c'est vrai que tout dépend un peu du point de vue que l'on adopte et du focus sur lequel on souhaite mettre l'accent en interprétant cette problématique de la double fonction. Bon, ils partent pas de la même chose pour analyser la situation. L'un part de la situation théorique en disant ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, et Rav Kook est plus dans une lecture dynamique en tenant compte du contexte. Enfin, c'est comme ça que je comprends.
Peut-être aussi la situation, je pense que le Rav Kook là, c'est sur la dimension caractère exceptionnel et en fait, on avait vu je sais plus quel texte qui disait que les premières générations de rachement du pouvoir étaient justement très attentifs à ne pas s'exercer dans la durée. Surtout à ne pas s'arroger de titre ménage. Donc, ça, nous, on a accès à des textes auxquels peut-être Ramban n'avait pas accès non plus, il n'avait pas cette vision-là, que cette génération n'avait pas envie de s'installer le grand prêtre dans le rôle de ménage. Aujourd'hui, on a des textes qui semblent montrer, c'est effectivement plutôt le roi Yana qui a.
Symboliser cette double fonction.
Vous avez compris sur la diaspora, parlez aussi sur la diaspora. D'abord, merci pour votre intervention, parce que c'est pas chez vous, c'est une confusion, c'est un méduméno, et vraiment, là, il y a vraiment un vrai lien formidable. Merci beaucoup. Et alors, il me semblait que la diaspora avait pris parti pour le mercredi.
Alors, oui.
Et donc, Rav Kook, les mêmes noms qui m'ont dit, en réalité, toute cette lignée-là, c'est dans la filiation de Rabbi Akiva et donc dans ce courant qui continue à diviser le monde.
Oui, je n'ai pas fini de diviser. Alors, Rabbi Akiva prend. Donc, d'abord, c'est vrai qu'il prend position déjà pour Bar Korba, il soutient Bar Korba, mais on est déjà après la destruction du deuxième temple. Hein, et bien plus loin. Effectivement, j'ai pas été chercher de sources sur Rabbi Akiva, mais on a trouvé un texte aussi sur qui analyse la lecture de Maïmonide et qui dit que Maïmonide considère même positivement cette période du Bar Korba avec cette possibilité de restaurer une souveraineté juive, et donc ça irait effectivement dans le sens de Rabbi Akiva et de cette lecture positive de cette période de la Torah.
Il y a une grande erreur, c'est de ne pas considérer concrètement ce qui se passe lorsque le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal sont confondus. La clé de... C'est mon métier. Ça, c'est comment on gouverne. La caractéristique du pouvoir temporel, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'il doit faire tout de suite quelque chose parce qu'il y a le feu à la baraque. Dans ce cas-là, pouvoir se servir du pouvoir sacerdotal est un trésor. Parce que c'est sacré, parce que tout le monde le respecte, etc. Mais ça tue. Parce que dans ce cas, l'urgence a toujours priorité. Et quand il y a priorité, on fait n'importe quoi. Que le Rav Kook ait été indulgent, c'est parce que c'était le premier grand rabbin sioniste. Donc, considérer qu'il y a un pouvoir politique juif, il était littéralement obligé par son choix de vie. mais dans la réalité, c'est abominable. Considérez que chez les chrétiens, pendant 2 millénaires, le sabre et le goupillon se sont entretués. Donc c'est de toute façon incompatible. Le Kohen Gadol n'est pas garant de l'ordre et de la paix, il est garant de l'éternité. Quand on gère l'éternité, on ne s'occupe pas du quotidien, jusqu'à ce que le temple soit détruit. Mais pourquoi il a été détruit? Précisément à cause de cette confusion. Quel était le produit d'une urgence? Quel était le produit d'une évidence du moment? On ne peut pas le nier, mais ça détruit le temple. Donc c'est quand même, on ne peut pas traiter cela comme une contrariété. C'est une abomination. Regardez la position d'Aaron au temps du veau d'or. Pour éviter un affrontement politique, il a fait le veau d'or. Moïse le lui a reproché, mais Aaron avait eu raison. Il ne fallait pas qu'il soit porteur d'une révolte.
Une dérive. À la base, les premiers Hachmonaïm ne tenaient pas du tout à être roi. Et ils ont été nommés grands prêtres parce que la fonction de grand prêtre, parce qu'il n'y avait personne pour porter la fonction de grand prêtre. Il ne faut pas oublier que les grands prêtres à l'époque du Second Temple sont quand même assez corrompus. On achète la fonction de grand prêtre. On l'achète. Et donc, à un moment, au moment où la Grande Assemblée nomme Shimon grand prêtre, c'est parce que elle n'a personne d'autre qui soit valable et qui soit suffisamment légitime pour porter cette fonction. Et donc lui, venant d'une famille de Kohanim, il était visiblement tout désigné pour porter cette fonction. Mais c'était par défaut. Et la Grande Assemblée a conscience qu'elle fait quelque chose qui est un peu une entorse et qu'elle crée un précédent. Mais elle le fait, elle dit c'est provisoire en attendant mieux. Mais malheureusement, ça dérive à la génération d'après. La génération d'après, elle n'est pas dans le combat pour la survie. Les frontières sont plus sûres, le pouvoir s'est installé. Comme toujours, hein, dès qu'on n'a plus à gérer des crises existentielles et des contraintes de vie, bah, il peut y avoir des dérives. Et c'est ça qui a dû se passer à cette époque, je pense. Mais c'est vrai que cette période du Second Temple est très trouble, hein, parce que ce grand prêtre qui a des pouvoirs de fait, même avant d'être roi, il a déjà des pouvoirs de fait parce que beaucoup d'argent notamment circule autour du temple. Et parce que les juifs, quand ils sont revenus de Babel, bah, ils n'ont pas de roi. Ils ont des guides, ils ont des scribes, ils ont grands prêtres. Donc c'est la figure spirituelle qui prend de fait une force politique. Et c'est ce qui mène effectivement à cette dérive qui n'est pas saine.
Oui, mais on ne peut pas comprendre la difficulté des juifs si on ne tient pas compte du poids formidable d'une influence grecque.
Oui.
En ce temps-là, la norme était grecque. On a traduit la Bible en grec, c'était pour rien. Donc, au fond, les juifs étaient spirituellement minorités dans leur esprit, dans leur conduite. Oui. Ils se composaient avec la vérité du temps.
Il nous ressemblait, sans
doute. Merci beaucoup pour votre exposé remarquable qui a eu en effet pour conséquence de débrouiller un petit peu le brouillard qui entoure ces années extrêmement complexes. J'aurais une remarque et une question. La première chose, c'est en effet une remarque. Ce que vous dites est si important que toutes les controverses contemporaines sur la laïcité et les lois de séparation s'enracinent là. Je veux dire qu'aujourd'hui, bon nombre d'officines religieuses ont beau jeu de dire, alors que la séparation des Églises et de l'État en 1905 s'est pour une part établie contre les religions, que eux-mêmes, les religions, avaient d'abord établi cette séparation. Sous la forme que nous avons étudiée aujourd'hui, ou sous la forme chrétienne de rendre à César ce qui est à César, etc. En attendant, cette distinction que vous avez bien marquée est au fondement des séparations des Églises et de l'État. Donc ça, c'est la remarque, c'est mineur, mais à mon avis, c'est absolument considérable. Et il y a toute une tradition aujourd'hui, par exemple, de penseurs, je pense à Braque notamment, qui enracine la question laïque en France dans cette séparation scripturaire entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. La question que je voudrais vous poser, c'est plutôt une confidence. Vous avez établi la distinction entre les Grecs et les Hébreux sur trois points. Vous avez montré aussi que quand les Grecs veulent asservir les Hébreux, ils s'attaquent à ce qui peut être fondamental chez eux, à savoir la sanctification du corps. Et je dois vous faire la confidence que, étudiant pas mal les Grecs, en tout cas un peu, j'ai de plus en plus de mal à formaliser en termes absolument rigoureux cette opposition. Je vais vous en donner peut-être deux ou trois exemples. La matière spiritualisée. Il est très clair que, alors là, on est au IIIe siècle, on est dans une Grèce déjà décadente. Mais si on prend Platon et Aristote, si justement on fait autant de sport, si on valorise autant l'amour, etc., c'est qu'il y a une spiritualité du corps, et que le corps est un vecteur ou un tremplin vers une spiritualité. La question du rapport de l'homme face au Dieu est loin d'être tranchée quand on a esquissé un face-à-face entre l'homme-Dieu chez les Hébreux, alors qu'on aurait un polythéisme grec. Je crois que l'affaire est quand même plutôt difficile, sans compter qu'on a très souvent, chez Platon par exemple, Théos au singulier, et non pas du tout au pluriel. Alors ça qualifie davantage le divin, mais à l'évidence, ils n'étaient pas étrangers, une certaine idée du divin que nous pouvons, sinon partager, du moins comprendre. Sur la question des classes sociales, je n'ai pas compétence. Et du coup, ce qui me frappe, c'est qu'il se pourrait que nous soyons dans le fond moins en désaccord. Ce qui le prouverait aussi d'ailleurs, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, à partir du moment où ils veulent s'en prendre aux Hébreux, ils s'en prennent à la sanctification du corps que nous pratiquons, mais c'est bien parce qu'ils l'avaient comprise. C'est parce qu'il y avait litige ici. Non, mais ça veut dire que... Oui, mais ils la partageaient. Ils la voyaient autrement, et j'ai pas les moyens de le définir ce soir. Enfin, j'ai pas assez travaillé pour le faire, et j'en ai pas les compétences. Mais à l'évidence, le litige... il pouvait y avoir un litige parce que les deux parties en présence, en quelque sorte, voyaient la même chose à faire du même objet. Simplement, ils voulaient en faire autre chose. Alors quoi, je ne sais pas, etc. Enfin, il y avait litige ici, et c'est pourquoi le corps devait être attaquable, parce qu'il ne s'agissait pas de récuser la spiritualisation du corps, il s'agissait de la spiritualiser aussi, mais peut-être d'une autre façon, et c'est pourquoi il y avait litige. Et c'est pourquoi, en un sens, vous avez très bien expliqué ensuite que s'il y a eu opposition, alors que la rencontre s'était faite au début sous les meilleurs auspices, c'est peut-être, finalement, pour des raisons seulement politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore lire le grec, alors qu'en toute rigueur, je me trompe peut-être, on aurait l'interdiction franche de lire le latin. On est beaucoup plus ennemis de Rome et des lettres latines qu'on a, si je crois, pas l'autorisation de lire, alors qu'on a toute autorité à se reconnaître dans les lettres grecques. Donc, cette question est une question à la fois franche, qui témoigne d'une perplexité qui s'accroît d'année en année. Même chez Lévinas, c'est compliqué, j'arrive pas.
Il était resté qu'il disait... Cette scission, je voudrais que vous questionniez, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit là ?
Est-ce que vous pouvez suivre jusqu'au bout cette séparation entre langue et culture ? Je ne sais pas.
Et moi, j'ai une conviction très forte. Que les Grecs ignorent complètement la morale. Ils n'ont pas de notion humaine. Ils ont un culte de la vérité, ils ont un culte de la beauté, qui est tellement sublime que même les Juifs en ont participé. Et il n'y a aucun rapport entre le vrai et le bien.
Bah, si ça s'appelle des transcendantaux, ils sont convertis. C'est de la technique, mais chez les Grecs, les le vrai et le bien sont convertis. C'est-à-dire que c'est kalos kagatos, c'est bien ça que ça veut dire.
Et je crois que ça s'explique parce que Socrate et Platon ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas de commerce avec leurs semblables, ils étaient dans la perfection du verbe. Donc, et au niveau du verbe, le vrai bien coïncide, pourquoi pas. C'est pas gênant, ça se dit bien. Mais la vérité, c'est que les Juifs sont confrontés avec le malheur d'autrui. On a cité les liens à juste titre. Il a ressuscité cette préoccupation fondamentale. Le visage de l'autre me crée une obligation que je ne satisferai jamais. C'est pas du tout grec, cette idée-là.
le propriétaire d'un esclave pouvait le mettre à mort, il n'était pas passible d'une condamnation pénale. L'être humain ne les intéresse pas. Il les intéresse quand il est divinisé. À la rigueur, effectivement, les dieux et les déesses sont un corps d'être humain, mais c'est un être humain totalement théorique. Ceux auxquels ils étaient confrontés, ils n'en avaient rien à faire. Ce qui était important pour eux, c'est la paix dans la cité, ce qui est quand même une préoccupation tout à fait légitime. Mais ça se fait avec des règles, avec des principes, avec des lois. Et en ce sens, ils se rapprochent des juifs, puisqu'ils ont quand même un monde extraordinairement raffiné, civilisé. Mais le respect de l'homme, ils ne le connaissent pas. Donc c'était indiscutablement une incompatibilité importante.
J'ai juste appris des choses pour préparer cela. C'est que, bon, d'abord, il y a cette fameuse phrase de je crois que c'est Aristote, c'est que l'homme est un animal pensant. Hein, c'est une vision quand même assez réductrice de l'humain. L'homme est un animal pensant, c'est-à-dire un animal qui pense. C'est pas pour les juifs, c'est l'homme possède le Tselem Elohim. Il est créé à l'image de Dieu. Donc c'est. Pour les juifs, il y a une vision que l'homme possède une étincelle de divin en lui, et que c'est cette étincelle qui lui importe de révéler. Pour les grecs, on est plutôt sur une espèce de superposition d'un esprit sur un corps. C'est pas tout à fait la même chose, déjà, d'un point de vue conceptuel. Après, il y a quand même ce qui se passait dans les cités grecques, c'est quand même extrêmement éloquent. Parce que il y a le discours et quand même ce qui se passe dans les faits imprime quand même quelque chose sur la pensée, ou en tout cas révèle quelque chose sur les limites de la pensée. Les inégalités profondes qu'il y a dans les cités grecques, c'est quand même assez épouvantable. Il vaut mieux être bien né en Grèce antique et être citoyen grec, mais si on est métèque, esclave, femme ou enfant, c'est foutu. Rien à faire. Encore un enfant va grandir, il va peut-être devenir citoyen, mais une femme, elle sera toujours dans le gynécée, un esclave, il sera toujours esclave, et un métèque, il sera juste bon à faire du commerce. Et il n'y a aucune possibilité d'évoluer et d'acquérir la condition de citoyen libre et avec des droits universels. Le projet divin dans la Torah est quand même assez différent. L'homme n'a pas vocation à être esclave toute sa vie. Il y a la libération des esclaves au bout de 7 ans. La femme a une place. Les enfants ont des droits. Enfin, on n'est pas dans le même projet de société. Et ça imprime quand même quelque chose. Ça révèle quand même quelque chose de la conception de l'humain. Je pense, voilà, pour donner quelques éléments. Et je voudrais ajouter un élément. Là, c'est vraiment le texte de la Torah, hein, pas d'éléments philosophiques. C'est que quand Noach va bénir Shem et Yafet, après qu'il les recouvert du manteau, ce qu'il va dire à Yafet, c'est Yaft, Yafet, je ne me rappelle plus en hébreu, mais il dit que Yafet s'agrandisse et qu'il réside dans les tentes de Shem. Sous-entendu, tu vas être quelqu'un de beau, de grand, tu vas t'agrandir, mais ce qui sera bien, c'est que tu sois dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans le cadre. Dans le cadre que propose Shem, c'est la vision de la Torah, hein. Ça veut dire la beauté de Yafet, l'agrandissement, oui, mais dans un cadre. Et c'est en cela, alors là c'est très militant, hein, peut-être, hein, mais voilà comment le message de la Torah est exprimé, c'est l'idée que la beauté, la culture, tous les apports de la civilisation grecque sont tout à fait légitimes et acceptables, à condition qu'il n'y ait pas de dérive. Et à condition que ça ne sorte pas du cadre de la tente de Shem, c'est-à-dire d'un cadre moral et de valeur qui limite les excès. Parce que si vous prenez l'art et que vous faites dériver l'art pour l'art, ça produit des excès. La musique, les dérives de la musique pour la musique, ça produit des excès. Le sport, les excès du sport pour le sport. Donc c'est le problème de la dérive, parce qu'il n'y aurait pas d'encadrement humain, moral, par le divin, qui limite les excès de ces apports et de cette culture grecque. Voilà, c'est le message de la Torah.
Un symptôme particulièrement important, c'est le fait que l'être humain qui est à l'image de Dieu, c'est pas l'homme, c'est le poule. Dieu créa l'homme à son image, il le créa mal et femelle. Alors on saurait que c'est le plan. Or, chez les Grecs, il est pareil, les hommes s'y
collent. Oui, il n'a pas le droit de citer.
J'ai découvert une petite idée très curieuse. Plus on est raisonnable, plus on est misogyne. Mettez-vous sur vous que Spinoza et les femmes, vous êtes horrifiés par ce qui apparaît.
Ah oui.
Spinoza était une misogynie pathologique. Il considérait les femmes comme des bêtes. C'était incroyable. Mais tous les rationalistes sont comme ça, et les Égyptiens qui n'étaient pas du tout rationalistes n'étaient pas du tout misogynes.
Ah oui.
Très fort.
Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai appris beaucoup de choses. Mais vous ne connaissez pas vraiment bien, bien la période historique claire de cette manière-là. En revanche, ce qui m'a toujours posé problème, et donc je vais revenir un peu sur la discussion qui a eu lieu avec Dan Arbib, c'est vraiment ce conflit Athènes et Jérusalem qui est très important en philosophie, sur lequel on revient beaucoup et on essaye de chercher la différence ultime entre Athènes et Jérusalem. Et moi j'ai du mal à trouver cette différence ultime, et souvent j'ai l'impression qu'on grossit les distinctions et de manière un tout petit peu exagérée, de sorte à trouver vraiment la différence et ce qui nous sépare des Grecs. Et moi, plus je lis les Grecs, alors peut-être que je projette quelque chose dessus, mais plus je vois une identité, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, en fait. Même l'idée du Dieu un, alors c'est une idée. Bon, là, on a une différence, parce que c'est un intelligible, et donc c'est une idée, le Dieu un, mais il y a une unité de Dieu chez Platon. Il y a même une relation à la mémoire qui est extrêmement intéressante dans la Grèce antique, qu'on peut rapprocher aussi du rapport à la mémoire dans le judaïsme. Et alors, j'aimerais bien savoir, pour peut-être approfondir la question, j'aimerais bien savoir de quel grec est-ce que l'on parle quand on parle de la différence entre les Grecs et les Juifs. Parce que là, si je comprends bien, vous prenez le modèle platonicien, il me semble, dans la hiérarchie de la cité, par exemple, avec les... Mais le modèle platonicien tel qu'il existe dans la République, c'est-à-dire la cité idéale qu'il essaye de construire avec les femmes et les enfants qui n'ont pas d'activité dans la cité. Sachant qu'en plus, dans la hiérarchie sociale de la Grèce antique, on peut être un esclave et être affranchi. Enfin, ça arrive. On peut être fait esclave et être affranchi. C'est même arrivé à Platon lui-même. Donc, il y a quand même aussi une mobilité sociale qu'on peut trouver. Je crois que l'on peut trouver. Moi, ce qui m'avait frappé en faisant des recherches à cet égard, c'était... Alors, c'est juste une remarque. Après, je poserai une question sur ce que vous avez dit. À force de faire des recherches en essayant de trouver la différence, mais c'est peut-être un narcissisme des petites différences, comme dirait Freud, c'est une différence dans le rapport à la temporalité entre le cosmos éternel des Grecs, et puis un rapport à la temporalité qui est vraiment différent dans le judaïsme, avec la possibilité d'une intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, qui fait que Dieu n'est pas simplement une idée, mais qui peut intervenir et changer le cours de l'histoire. Et un philosophe que j'ai étudié en particulier qui s'appelait Hertzberg, disait que la différence entre les Grecs et les Juifs, dans cette perspective, c'était que chez les Grecs, le temps s'incarnait dans la tragédie, dans une forme de fatalité cyclique, les choses qui reviennent, et l'éternel retour du même, tandis que chez les Juifs, et c'est Job qui incarne ça, il y avait un pouvoir des lamentations, et qu'à force de se lamenter, on pouvait changer éventuellement le cours des choses. Donc c'est pas de la tragédie, il y a la possibilité d'une redistribution de la justice et de l'histoire. Donc, moi je me dis que la différence entre les Grecs et les Juifs, c'est peut-être ce rapport à la temporalité. Mais en revanche, en ce qui concerne les idées, il me semble qu'on peut s'élever aux mêmes idées, par la raison. Et puis bon, je serai un peu moins critique à l'égard de l'absence de morale des Grecs, parce qu'il y a quand même beaucoup de traités d'éthique. Alors peut-être que c'est pas une morale qui convient, je ne sais pas, mais bon, moi j'y trouve quand même beaucoup de concepts de justice très intéressants et importants. Ce qui m'intéressait là, dans ce que vous avez dit, justement dans les prises de pouvoir des uns et des autres, c'est qu'il y a une séparation entre les religieux qui ne doivent pas prendre le pouvoir et puis ceux qui, au contraire, peuvent le prendre, le pouvoir religieux, le pouvoir du roi. Et justement, chez Platon, il y a l'idée que les meilleurs gouverneurs sont ceux qui ne sont pas susceptibles de commettre des abus de pouvoir, sont ceux qui prennent le pouvoir par contrainte.
Alors, ceux qui sont contraints d'avoir le pouvoir ne peuvent pas abuser du pouvoir. Et donc, de ce point de vue-là, enfin, on pourrait y avoir une positivité de ce type de gouvernement qui est provisoire, mais qui est attribué aux religieux, mais qui, en fait, les religieux voudraient faire autre chose. Ils voudraient étudier, c'est ça. Ils voudraient... Mais pendant le temps qu'ils ont le pouvoir, ce serait un pouvoir contraint, et donc, a priori, en tout cas selon Platon, mais là peut-être que je mélange tout, mais selon Platon, ce type de pouvoir-là est une contrainte et il ne peut pas aboutir sur un abus de pouvoir.
Il n'est plus moral. C'est...
Oui, c'est ça. Alors ce problème, c'est la question du provisoire. En fait.
Non, en tout cas, il faut donner le pouvoir à ceux qui n'en veulent pas.
C'est la règle platonicienne.
C'est le problème.
De trouver qui ne veut pas du pouvoir.
C'est ça la morale des Grecs, c'est le bonheur. La justice, c'est la violence. Donc il faut que la justice. Mais c'est pas une préoccupation à la manière du jeu. Qui a bien étudié compassion pour la souffrance. Ça, c'est bien.
L'aspect du temps sur la temporalité, parce que je suis pas, encore une fois, je ne suis pas une experte hein, de la connaissance de la civilisation grecque, mais par rapport au temps, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que notamment dans tous les éléments que vous avez soulevés. C'est intéressant de voir que dans les mesures que les Grecs ont prises contre les Juifs, au moment où le pouvoir militaire grec va imposer les choses par la coercition, interdiction de pratiquer, interdiction de respecter le Shabbat, et interdiction aussi de la bénédiction du mois. Mais c'est intéressant parce qu'on peut se dire, bon, allez, le Shabbat, on peut comprendre, ça les dérange que pendant une journée par semaine, les gens ne travaillent pas, ils vont être moins productifs, etc. On peut imaginer une lecture un peu rationaliste des choses. La domination sur les corps, on peut imaginer que, voilà, ils tiraient profit avec notamment, enfin, il y avait le droit de cuissage à l'époque, donc ça les arrangeait bien. Donc, bon, on peut toujours trouver une lecture rationnelle à ce que les Grecs ont imposé comme mesure coercitive contre les Juifs. Mais alors, la bénédiction du mois, j'avoue que ça, franchement, en quoi ça les dérange? En quoi ça les dérange que des Juifs aillent se rassembler, regarder la lune et dire « c'est le début du mois, c'est la fin du mois » En quoi ça les dérange? En quoi ça enlève quelque chose de, ça leur enlève quelque chose ou ça leur apporte quelque chose qui serait dérangeant? Et peut-être que là, on touche justement à un élément essentiel qui est ce rapport au temps, qui est que la bénédiction du mois, c'est la première mitzvah qui a été donnée au Bnei Israël au moment où ils sortent d'Égypte, la première mitzvah qui leur a été donnée en tant que peuple. Il y a eu 3 mitzvot qui ont été donnés aux Avot, mais là, c'est vraiment en tant que peuple. Et c'est une mitzvah extrêmement paradoxale. On se dit, mais comment on peut donner à l'homme le droit de décider à quel moment le mois se termine et le mois commence, sachant que c'est structurant pour définir le moment du Moed, à quel moment on va fêter Rosh Hashanah, à quel moment on va fêter Kippour, Sukkot, etc. Mais pour autant, Dieu, la première chose qu'il donne à ce peuple qui vient de s'affranchir, c'est la mitzvah, le commandement, autorité sur le temps. Alors, c'est pas le temps en son ensemble, hein, c'est une fraction du temps, c'est le passage, en comptabilité, on a N plus 1, N plus 2, voilà, c'est le passage de J plus 1, J plus 2. C'est infime, hein, mais c'est quand même très important parce que c'est ça qui va définir le moment où Dieu va prendre rendez-vous, le peuple va donner rendez-vous à Dieu pour le moment du Moed. Donc c'est un pouvoir, mais c'est extrêmement puissant comme pouvoir.
Il y a un midrash qui décrit la veille de Rosh Hashanah où les anges disent à Dieu, demain tu juges les hommes et puis il ne se passe rien. Alors Dieu dit, bon, ils ont une autre idée. Je pense que pour les Grecs, l'idée que les hommes arrachent au Dieu un pouvoir de cette nature est abominable.
C'est quelque chose d'insoutenable pour eux. Oui, oui. Je pense que c'est ça, on touche à l'essence du rapport à la nature et du rapport à l'ordre du monde qui est fondamentalement dérangeant, mais c'est vraiment idéologique. Là, on n'est pas dans quelque chose qui enlève un quelconque avantage matériel. C'est purement idéologique et ça les dérange. Et pourtant, je me permets, il a fallu que ce soit quelqu'un qui soit issu des rangs juifs qui nous apporte des éléments sur la relativité du temps. C'est ça qui est intéressant. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais l'idée que le temps, c'est une construction, c'est pas une donnée intrinsèque de la nature. Voilà, c'est quelque chose que la Torah a apporté. C'est le premier commandement qui a été donné au peuple juif, et ça, pour les Grecs, c'est pas acceptable. Alors peut-être que c'est le point résiduel de rupture, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez fort, ce rapport au temps.
Alors oui, je voulais vous remercier aussi pour cet exposé et faire une petite remarque qui va rentrer dans le sens de ce qu'ont dit Dan et Abishag, c'est que je suis toujours étonné effectivement de cette polarité absolue qu'on veut à toute force dresser entre le monde grec et le monde juif ou hébraïque, qui me paraît en fait rétrospective d'une certaine manière. D'autant plus que bon, on sait aujourd'hui par les travaux des historiens, je pense à Melez, Morojevitz, mais il y en aurait d'autres qui ont montré que en fait la guerre contre les Séleucides était plutôt une guerre civile entre juifs. On ne sait même pas si Épiphane n'est jamais passé par ce bout de terre. Et on est sans doute face d'emblée, même à l'époque des Asmonéens, et même chez les Asmonéens, à une société déjà très fortement hellénisée. D'ailleurs, c'est la question que je voudrais vous poser. Mais au préalable, je voulais vous donner quelques références, toujours un peu, pas tout à fait dans votre sens. Par exemple, sur l'inégalité des Grecs. Bon, ça, on va pas discuter de ça chez les Grecs. Mais par exemple, le livre de Paulin Ismar, chercheur qui travaille beaucoup sur la politique grecque, a montré que certains esclaves tenaient le rôle des énarques aujourd'hui, et que c'est eux qui gouvernaient en fait Athènes, puisque après tout les citoyens ne faisaient rien. Donc ça nous amène peut-être à nuancer certaines choses. D'autre part, des courants des théologiens et des historiens catholiques ou protestants, au contraire, eux insistent beaucoup, surtout les modernes. Je pense à des gens comme Herbert Hague, qui a étudié la proximité entre le monde homérique et le monde de la Bible à l'âge axial, ou des gens comme Thorleif Baumann, qui a essayé de montrer la proximité entre la pensée hébraïque et la pensée grecque. Donc il y a tout un travail qui va à la fois d'historien, de philosophe, de théologien, en tout cas plutôt chrétien, c'est vrai, qui va dans un tout autre sens que celui auquel on a été effectivement habitué en milieu juif et auquel nous habituait la fête de Hanouka, la lecture qu'on fait depuis je ne sais pas quand de la fête de Hanouka. Alors il faudrait savoir qu'est-ce que nous, juifs, on met derrière ce mot grec qui n'a pas sans doute grand-chose à voir avec ni avec les relations entre les juifs et grecs à l'époque des Asmonéens, ni sans doute avec les Grecs eux-mêmes. Mais du coup, c'est intéressant. C'est effectivement intéressant, mais là-dessus, j'ai pas vraiment de réponse. Alors, à la fin de votre exposé, elle a posé une vraie question sur, au fond, la dipartition de l'idée de roi. Et vous avez parlé du basileus, bon, c'était plutôt le basileus des diadoques, enfin des successeurs d'Alexandre, Ptolémée, Séleucos, etc., plutôt que le basileus byzantin, qui est plus tardif. Alors je voulais justement savoir, vous avez opposé une vision idyllique, le roi issu de Jacob, de David, la monarchie davidique, etc., à la réalité que les commentateurs prennent en compte. Et justement, est-ce que c'est pas ça l'origine du malaise qu'il y a avec la royauté à l'époque asmonéenne, le fait qu'au fond cette royauté elle est grecque en réalité, c'est pas du tout la royauté. Est-ce qu'on pourrait pas, par hypothèse, y voir l'origine de cette bipartition et de ce malaise?
pense, moi, ce que j'ai lu, déjà quelques éléments, déjà sur le fait que, effectivement, ça pose question, ça pose malaise, et c'est une des explications qui, c'est un des éléments qui explique que le livre des Maccabées n'ait pas été canonisé, et que toute cette histoire de Hanouka, si on regarde dans le Talmud, on n'a que des petits entrefilés comme ça, et sur la mitzvah d'allumer les lumières de Hanouka, on a un petit passage dans une Gemara qui explique que si on doit faire un choix entre les lumières de Hanouka ou les lumières de Shabbat, voilà comment il faut procéder. Mais c'est comme ça, c'est en passant. Et on n'a pas un récit comme la Megillat Esther canonisé, officiel de l'histoire de Hanouka, ce qui est déjà quand même qui pose vraiment question. Et effectivement, il y a ce malaise sur la forme de la royauté qui s'est exercée à l'époque des Maccabées, qui expliquerait en grande partie ce grand absent dans le canon biblique. Après, effectivement, je vous rejoins tout à fait sur le fait que cette vision un peu caricaturale, les Juifs face aux Grecs, je pense que j'ai peut-être pas été assez cité dessus, mais on avait quand même dans la société juive des fractures importantes entre les Juifs hellénisés et les Juifs traditionalistes. Les Juifs s'étaient déjà laissés embarquer dans l'influence du modèle grec, ils avaient adopté leurs coutumes, et c'est cela déjà qui imprime déjà une grosse fracture dans la société juive. Et c'est effectivement cette espèce de guerre civile qui est le cœur de l'histoire de Hanouka. Mais peut-être que le sujet est au fond toujours un peu d'actualité quelque part, qu'on n'est pas vraiment sorti de cette période, et qu'on a toujours cette espèce de tension, même en nous, en chaque personne, entre le côté civilisationnel, je veux être dans la modernité, et puis le côté non, je suis attaché aux traditions et les traditions doivent prendre le dessus sur le reste. Donc est-ce que c'est pas cette actualité permanente de cette tension entre le modèle grec et le modèle juif qu'on vit en chacun de nous, que le peuple juif vit dans ses composantes, et qui crée peut-être ce malaise, qui crée une difficulté aussi à caractériser complètement la fête de Hanouka et ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous apporte encore aujourd'hui.
Sur le fait que nous sommes une civilisation formidablement intelligente. Ça se voit au niveau théorique, où tout est simple et les problèmes fabuleux. On a coutume de dire qu'aujourd'hui, 90% des savants qui ont existé un jour sont toujours vivants. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un temps d'extraordinaire maîtrise de la pensée et même de la nature, puisqu'on sait faire des choses incroyables. Et bien, dans ce monde fabuleusement intelligent, des milliers de gens se noient tous les jours en Méditerranée. Et M. Bachar el-Assad jette des gaz de combat sur ses propres enfants. Et un des deux bouches a dit, s'il franchit cette ligne rouge, je lui tape dessus. Et il est soutenu par des Iraniens et des Russes qui sont les uns les autres des gens purs. C'est totalement, ça confirme totalement l'absence de morale. Dans la raison. La raison est triomphe fabuleux, mais elle n'a pas réussi à empêcher le fleuve de sang qui coule actuellement.
Dans votre exposé, pour en venir à la question politique, il y a deux moments que moi j'ai trouvé évidemment importants. Le moment féminin, c'est-à-dire le moment où Shlom Tzion Malka prend le pouvoir, enfin, elle ne le prend pas justement, on le lui donne, hein, ça fait partie de ces personnages qui ne sont pas désignés pour être spontanément au pouvoir et à qui ça échoua. Et donc, curieusement, on a une période de prospérité, on a une période, et je voudrais rajouter aussi, pour les femmes, elle a changé le statut des femmes. Enfin, il y a un encadrement juridique très intéressant. Elle a vraiment émancipé, je crois, les femmes. Ça, il faudrait voir ce que dirait Rav Grunstein sur ce point. Elle a vraiment fait la révolution, en fait. Et ça, c'est un point très intéressant. Et en même temps, politiquement, si j'ai bien compris, elle a le pouvoir s'est dissocié puisqu'elle est femme et que donc il fallait un roi et il fallait un prêtre, un grand prêtre. Alors ça, c'est un premier moment qui est très intéressant sur lequel on peut effectivement réfléchir. Et il y a un deuxième moment, et celui-là, effectivement, il a peut-être à voir avec cette question, en fait, de la messianité ou du temps différent dans la perception juive. c'est que c'est l'origine de la perte de souveraineté, c'est quand même une guerre intestine, c'est une guerre civile, c'est une guerre entre les fractions juives qui vont se référer au pouvoir de Pompée. Et donc ça, c'est à méditer, ce moment-là. Hein, ça me paraît quelque chose. Voilà. Dernier point, peut-être. Alors, concernant quand même la question de la spiritualité chez les Grecs, il me semble que la Torah, la Septante en grec, elle est cachère. On peut la lire à la synagogue. La lecture est cachère. Et je voulais interroger le Rav Grandstein sur un rabbin qui, je crois, a beaucoup réfléchi sur cette question de la spiritualité, justement, grecque. Et une question très délicate, en effet, de l'intrication de la spiritualité juive et grecque. C'est le Rav Utner. Utner. Je crois qu'il a écrit des choses tout à fait... Oui, il a dû écrire des choses très intéressantes, il me semble, sur l'histoire de la corne de bœuf. Et il médite là-dessus. Et ça, ce serait peut-être intéressant aussi, parce que c'est un point central pour les questions politiques aussi.
Oui, sur le règne de Salomé et Alexandra, je vous rejoins tout à fait. Moi, ça m'a passionné. Il y a envie de voir qu'une femme a régné à cette époque. Et qu'en plus c'était un règne positif, parce que si on pense à l'autre règne juive, enfin l'autre règne dans le monde juif qui a existé, la reine Athalie, le bilan n'est pas glorieux. Et la reine Esther n'a pas régné en Judée. Hein, elle a régné, et puis c'était la femme du roi, c'était pas la souveraine en titre. Donc là vraiment on a une reine en terre de Judée, et en plus qui est exemplaire. Donc c'est quand même très intéressant. Bon, Flavius Joseph est un peu critique quand même sur elle. Il dit que c'est une femme de pouvoir, qu'elle déteste les hommes, qu'elle a intrigué pour arriver là. Bon. Mais il n'est pas rejoint dans cette lecture critique par les autres commentateurs de cette période. Voilà, et dans le Talmud on la cite pas. Moi, franchement, j'ai bien envie d'aller creuser le sujet. Et en tout cas, dans son règne, elle incarne le fait que là, voilà, on ne remélange plus les fonctions. Elle est dans cette dynastie asmonéenne par alliance. Et de par ce qu'elle est, il n'y a pas ce mélange de fonctions, puisqu'elle ne peut clairement pas être Cohen Gadol. Donc la fonction va échoir à son fils. Et en plus, elle soutient les pharisiens, donc elle rétablit une espèce de, quand même une certaine concorde nationale. Mais tout ça sera de courte durée, puisque après, à sa mort, les fils vont se déchirer sur la reprise du pouvoir. Mais en tout cas, voilà, cette période de 9 ans est une espèce d'œil du cyclone après une période compliquée, clivante avec Alexandre Janet, et avant la période trouble où les Romains vont prendre le pouvoir. Et elle pose question, elle mérite, je pense, d'être plus étudiée, mieux connue, parce que je pense qu'elle nous apporte beaucoup d'éclairages très intéressants sur ce que peut être une gouvernance apaisée, sans tension, relativement habile apparemment. Voilà, donc c'est intéressant de creuser, je pense, ce point. Shalom Tzion, la paix de Sion, ouais, tout à fait.
Alors, une remarque générale sur l'exposé, c'est que vous avez tiré toutes les données historiques du livre des Maccabées. Et vous vous êtes interrogé sur la non-canonisation du livre des Maccabées. Mais ici, un problème fondamental, c'est que, aux yeux du Talmud, la canonisation, elle n'est même pas envisageable, elle n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, justement, l'exil grec, il commence avec la fin de la prophétie. La Gemara dans Avodah Zara 8b, elle décrit le second temple de cette manière. 34 ans sous l'Empire perse, 180 ans sous l'Empire grec, et 180 ans sous l'Empire romain. Ça, c'est l'entièreté du second temple. Et si on fait la somme, 34 plus 182 fois, ça fait 394. Voilà. 394, il reste encore 26 ans pour compléter le second temple. Et la Gemara, elle dit, ça, c'est les 26 ans pendant lesquels il y a eu véritablement une gouvernance des Hashmonaïm indépendante sur le sol d'Israël. Qu'en tout et pour tout, les Hashmonaïm, ils ont exercé une légitimité de pouvoir aux yeux de la Guémara pendant 26 ans. Et ces 26 ans, ils ne correspondent pas aux dates du livre des Maccabées. Puisque ces 26 ans, ils se situent donc 34 plus 180, ça fait 214 ans après la construction du deuxième temple. 214 ans après la construction du deuxième temple, ça fait un événement de Hanouka en moins 138. Puisque le temple, il est détruit en 68. 214 ans de la construction du temple, ça veut dire jusqu'à la fin du jusqu'à la destruction, il reste 206 ans. Donc si le temple il a été détruit en 68, on enlève 206 et ça nous fait moins 138. Donc il y a une grosse différence dans la manière de dire les événements tels que ils sont rapportés dans la Gemara. Et la Gemara ici, elle n'hésite pas puisqu'elle dit avec précision 34, 180, 180 et au milieu la période de 26 qui est cette période, on va dire, d'autonomie. En tout et pour tout, pendant les 420 ans du deuxième temple, il y a eu 26 ans d'autonomie. Et ça, ça renforce énormément la question que vous avez posée sur Rambam. C'est absolument incompréhensible cette phrase de la royauté est retournée à Israël 200 ans et un peu plus. Alors effectivement, il s'agit de ces 206 ans, mais 103 ans, la Gemara dit explicitement, 103 ans c'était les Hashmonaïm et 103 ans c'était les rois de Hérode. Alors dire des rois hérodiens de la lignée d'Hérode que ce sont des rois qui ont rétabli la majesté de la royauté en Israël, c'est une, incompréhensible. Ouais. Mais principalement, donc, ce que la Gemara pointe sur l'événement des Hashmonaïm, c'est que les Grecs et les Romains, ils étaient en guerre, et c'est avec l'aide des Romains que les Juifs ont chasser les Grecs du pays. Et le problème que là on pointe chez les Hashmonaïm, c'est ensuite d'avoir introduit les Romains en Eretz Israël. Et c'est les Romains qui sont en fait le malchut, l'exil, qui va se nourrir de l'exil grec. Parce que, en tant que tels, eux, ils n'ont pas de légitimité dans leur empire. Donc, en résumé, il n'y a pas de livre des Maccabées, parce qu'à cette époque, ce n'est pas possible. Il n'y a plus à écrire. Le seul document écrit qu'on a sur Hanouka et qui soit traditionnel, c'est une phrase qui est de la Megillat Ta'anit. La Megillat Ta'anit, c'est le seul document écrit de la période du Second Temple, aux yeux de la tradition, et ce document écrit, il est plus que laconique. Il ne dit que des dates, sans dire des années, et des événements en une phrase. Le développement de cette Megillat Ta'anit, il est oral, ce sont des braïtot, ce sont des enseignements oraux qui se sont transmis de génération en génération. Si on veut savoir l'histoire de Hanouka, donc, on a en premier le texte de Al-Nissim. C'est le texte de Al-Nissim qui est la base de ce que les sages ont introduit comme énoncé pour se représenter cette période. En deuxièmement, on a la Megillat Ta'anit. Et en troisièmement, avant le livre des Maccabées, on a aussi un document qui a été transmis par Rav Saadia Gaon et qui s'appelle, alors ça dépend, il a plusieurs noms, soit Megillat Antiochus, soit Megillat Bene Hashmonaïm. C'est une Megillat qui était écrite au départ en araméen, et elle a été traduite en arabe par Rabbi Saad Yagaon, et là-bas, la relation de ces événements-là, elle diffère aussi de celle qui est racontée dans les Maccabées. Par contre, dans cette Megillah-là, on a une correspondance exacte entre les dates du Talmud et celle de la Megillah d'Antiochus. Donc, il y a une révision complète, on va dire, à faire si on ne prend pas pour acquis les évidences des historiens qui considèrent, par exemple, le livre des Maccabées comme une source légitime. Aux yeux de la tradition juive, le livre des Maccabées, c'est un document écrit, mais on ne sait pas de où on le tient. Et ni si son auteur, quelle est la qualité de son auteur, et à part ça, si le texte lui-même, il n'a pas été altéré dans les générations, puisque de notre point de vue, de notre tradition, on n'a pas gardé ce livre. Et on n'a pas gardé une référence à ce livre. Donc, il y avait souvent dans votre exposé, on va dire, un mélange, on va dire, une certaine référence au livre des Maccabées, en même temps une certaine référence à des phrases du Talmud. Mais en fait, ils ne fonctionnent pas en même temps. Ce sont deux corpus de textes hétérogènes. Pas forcément, mais on peut constater déjà une immense différence. Mais ça, je te laisse la responsabilité de le dire. Il dit énormément de choses, juste, bien sûr, mais pas à l'endroit où on le trouverait, où on voudrait le trouver. Le gros morceau de Hanouka, il est dans Avodah Zara, page 8b et suivante jusqu'à 10. De 8 à 10, c'est là-bas où on traite le problème historique de la période du Beit Sheni.
Ça veut dire que l'histoire sainte et l'histoire ne coïncideraient pas, donc.
L'histoire sainte, à proprement parler, elle a duré 1000 ans, de Moshe Rabbeinu à Ezra. Ezra, c'est le début de l'ère des Shtarot. L'ère des Shtarot, c'est ce qu'on appelle dans le monde académique l'ère séleucide, moins 312. C'est 1000 ans exactement après la sortie d'Égypte. L'exil grec commence par la fin de la névoie en Israël. Et c'est justement parce que la névoie s'est arrêtée qu'il y a maintenant véritablement un débat entre les Juifs et les Grecs, puisque maintenant les Juifs, ils doivent, sans un personnage qui est désigné comme prophète, être en mesure de justifier avec des raisons le référent traditionnel. Et ça, peut-être, c'est le point fondamental de différence entre la pensée grecque et la pensée juive. Puisque dans la pensée juive, même un homme d'une intelligence prodigieuse, il est toujours soumis à la référence pour établir sa pensée et la légitimité de sa parole. Il a une référence claire à la Torah écrite, mais pas seulement à la Torah écrite, à la Torah orale. Tandis que dans un monde de pensée tel que nous on le pratique en Occident, et ça on l'hérite des Grecs, eh bien un homme qui pense, il commence à zéro. Et il introduit une part, on va dire, de référent de sa propre pensée. Et c'est en cela que les Juifs et les Grecs se sont affrontés en Eretz Israël à cette période, sur cette question-là de la référence de leur parole. Que la notion de référence d'une parole, elle est absente dans la civilisation hellénistique. Alors ça aussi, c'est une grande différence à faire entre les Grecs de l'époque de Aristote et Platon, qui n'ont rien à voir avec les Grecs de la période hellénistique, et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appellera, nous, la philosophie juive qui est entrée dans le judaïsme, parce que la philosophie juive, quand elle est entrée dans le judaïsme, elle n'est pas rentrée en langue grecque. Elle est rentrée dans le judaïsme à travers un passage du grec à l'araméen, et de l'araméen à l'arabe. C'est seulement la philosophie traduite en arabe qui est entrée dans le judaïsme à l'époque des Géonimes et qui a été reprise à l'époque des Rishonimes. À l'époque des Tanaïmes, toute la civilisation grecque, on n'en veut pas. Et Philon, il est un héros, pas chez nous, chez les chrétiens.
Il y a quand même des expressions grecques qui sont totalement liées à la baguette, à la on a des termes comme ça dans la Gemara qui sont issus de la langue grecque et qui vont exprimer des choses très importantes.
Sur la langue. Parfaitement. Dans toute la Mishnah, il y a des expressions en pagaille qui nous viennent du grec. Et alors ? Avec une expression de la langue grecque, on ne donne pas une légitimité à une mentalité de la civilisation hellénistique. Parce qu'on vit sous leur emprise. 180 ans, on est dominé ou par ceux du nord ou par ceux du sud, mais on est sans cesse sous la domination de cet empire-là qui se fait des amis à l'intérieur même du peuple juif et qui, eux, véritablement font la, comme il l'a dit Nicolas, c'est véritablement eux la guerre civile. La guerre de Hanouka est une guerre civile entre les juifs hellénisés et les juifs qui ne veulent pas s'héléniser.
Ah, merci, vas-y, c'est ce que je voulais dire. Je pense que les deux étaient
hélénisés. Mais l'enjeu, ce serait quoi si les deux étaient hélénisés?
J'en sais rien, mais je trouve personnellement, j'ai tendance à penser ces oppositions trop tranchées. Ben, je pensais en vous écoutant à Avraham Hanel dans son récit de la création, qui reprend toute la physique d'Aristote. Alors peut-être qu'il l'avait connu par, oui, qu'il le reprend du Rambam. Enfin, il y a une espèce, il y a quand même pas, on sent pas cette incompatibilité absolue entre la pensée grecque et la Torah, hein, de même
la pensée grecque en langue arabe.
Oui, bon, d'accord, mais enfin, maintenant qu'on connaît la physique d'Aristote, c'est pas si différent. Enfin, on peut, bon.
Si différent, c'est le mode par lequel ça s'introduit.
Oui, oui, c'est intéressant, ça, c'est vrai.
Les Arabes, quand ils ont traduit la philosophie, ils se mesurent donc à leur corpus en tant que religieux. C'est une religion qui se mesure à un corpus. Et nous, on a été les héritiers de ce débat-là, qu'on a été conné béchinoui, qu'on a acquis par toutes les nuances qu'on a introduites dedans. Mais le travail de la traduction de la philosophie en araméen et ensuite en arabe, c'est ça qui a permis aux Juifs d'introduire. Enfin, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à partir de Rabbi Saadia Gaon que la philosophie commence à avoir une place à l'intérieur même de la tradition où des penseurs essayent de concilier, de marier ces deux manières d'être au monde, comme s'il pouvait y avoir une véritable harmonie dans cette double manière de dire la chose. Mais cette chose-là, elle a été rendue possible, pas à l'époque de la civilisation hellénistique, seulement à l'époque bien plus tardive des Arabes qui ont traduit la philosophie et qui ont, par ce déplacement, opéré véritablement pour nous un accès au concept, mais dans des mots qui ne soient pas les mots grecs. Les mots de la philosophie, quand ils sont traduits en araméen et en arabe, eh bien, ils résonnent même aux oreilles d'un hébraïsant.
Donc, il n'y aurait pas eu à ce moment-là symbiose. Alors, il n'y aurait pas eu de mélange à ce moment-là. Ce ne serait pas au moment de l'occupation grecque et romaine qu'il y aurait eu quelque chose qui aurait hellénisé les juifs.
Ben, ce qu'on sait du Talmud, c'est qu'il y a eu une hellénisation d'une certaine population, c'est la population d'Alexandrie, dont il reste pas un seul survivant. Elle a été rasée jusqu'à la dernière personne, cette population juive hellénisée. Il ne reste rien de ça.
Éléphantine.
C'est avant ça. Dans l'hypothèse qui consisterait à trouver de temps en temps dans le Talmud, et il est tard et j'ai mauvaise mémoire, deux raisons pour ne pas donner de référence exacte,
de temps en temps dans le Talmud, des discussions qui, si on connaît les Grecs et leur reprise latine, s'éclairent d'une façon tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que j'ai en tête une chose ancienne, mais j'ai plus de référence, où il fallait prendre, pardonnez-moi de cette pédanterie, les Hypomnémata de Marc Aurèle, livre 7, pensée 47. Et c'était une discussion topique. Alors vraiment, c'est-à-dire que moi j'avais Marc Aurèle en tête, j'étudie ce passage-là et je dis mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a une confrontation directe. Alors peut-être en effet que je vais la chercher, peut-être que je la fabrique, mais je la fabrique pas sans matériaux au préalable. Est-ce que vous accepteriez les données d'une telle confrontation quand elle est peut-être reconstruite par l'interprète, mais elle suggère à tout le moins qu'une rencontre a été possible. Si elle n'a pas été, possible, physiquement, lexicalement, si les canaux de la rencontre ne peuvent pas encore être établis, à tout le moins, il y a des lieux de convergence dans lesquels les pensées débattent, et le Talmud peut parfaitement s'en faire les cas du moment que l'interprète a, lui, en tête des hypotextes, enfin des textes souterrains qui peuvent l'éclairer dans ses lectures. Parce que le grand problème aussi, souvent, pardonnez-moi, c'est que quand on parle des Grecs, etc., on est, nous, tous ici, je m'inclus, pas bons en grec. Donc on parle pour une part de ce qu'on connaît moins bien que ce d'où l'on parle. Donc quand on lit la Torah ou le Talmud, on dit il n'y a pas de grec là-dedans. Quand on connaît un peu les grecs, c'est beaucoup plus difficile de l'établir. Donc il y a quand même des rencontres qui sont possibles. Peut-être faut-il, mais c'est une suggestion, je vous demande ce que vous en pensez, sans donner la peine.
D'ailleurs, c'est cette confrontation que...
La Grèce du 5e siècle par la comparaison entre le monde homérique et le monde de la Bible, hein, ça a été fait, il y a des épisodes, enfin par exemple Shabbat dernier on parlait de l'enlèvement de Dinah et je me disais mais c'est le scénario de la guerre de Troie exactement, hein, en plus petit évidemment, mais d'où le déluge par exemple où Gaïa ne supportant plus de porter l'impiété des hommes et donc demandant à Zeus de provoquer deux guerres contre Thèbes et contre Troie qui va limiter le... donc c'est une espèce de déluge sec. Voilà, donc enfin je veux dire, c'est tout un chantier.
Il retrouvait Ulysse avec sa femme, avec des signes secrets. Mais moi je voulais...
Un rapprochement entre les Juifs et les Grecs, justement, puisque je ne sais pas exactement le pointer, mais la Gemara dit que Rabbi est l'empereur romain de cette époque qui s'appelle Antonin, et Marc Aurèle, il est aussi Antonin, ont eu véritablement un échange comme il n'y a jamais eu. Mais ça, c'est l'exception. Rabbi et Antonin. Comme Jacob et Esav, ils étaient ensemble dans le ventre de leur mère, eux, ils ont retrouvé quelque chose.
D'une discussion qui n'est motivée par aucune rencontre physique, qui n'est motivée par aucune attestation historique, mais qui simplement provient du savoir de l'interprète, qui est capable de déceler dans un passage du Talmud un élément de reprise ou de discussion d'un corpus hellénistique. Latin ou plutôt grec. Là, ça n'a rien à voir. J'ai cité Marc Aurèle parce que c'est l'exemple sur lequel j'étais tombé. Il s'agissait des Hypomnémata, etc. C'est un passage de Marc Aurèle, d'ailleurs, qui a chez Écho, chez Épictète, et donc qui n'a rien à voir avec l'idée qu'il puisse y avoir une rencontre effective entre Antonin, Rabbi, etc. C'est tout à fait autre chose. Je veux dire qu'il y a des lieux de discussion qui sont possibles à condition que l'interprète veuille bien les faire émerger. C'est autre chose.
Dans les informations que vous nous donnez sur la scansion temporelle et ce qui fait que
livre des Maccabées n'est pas canonisé, ça fait apparaître en réalité que l'exil dans la tradition juive, il commence bien avant l'expulsion et la destruction du temple. L'exil commence avec le pouvoir grec, enfin l'emprise sur les esprits, donc, et dans la culture des Grecs. En somme, on ne parle pas des Romains, là, on parle des Grecs. Donc, en fait, on est en exil sur sa propre terre.
Et ce,
d'accord, c'est ça que vous allez nous expliquer. Et c'est ça là, peut-être la différence au plan historique où l'exil commence à partir du moment où on est expulsé, où on est déporté, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Mais alors, si on considère que l'exil commence à ce moment-là, alors les questions que pose Dan, que pose Nicolas, etc., se posent. Parce que si il commence à ce moment-là l'exil, donc c'est qu'il y a bien eu un contact. Et comment vous caractériseriez ce lien-là, à ce moment-là, et précisément ce lien qui est celui de l'exil. Domination peut-être.
Le Baïchi, il est entièrement en exil à 26 ans.
L'exil,
ça a commencé avec Bavel. Et depuis, on n'en est pas revenu. Partiellement, un petit peu. Mais on n'est pas sorti véritablement de l'exil. L'exil, il commence avec Bavel et les quatre empires qui sont dans le verset de Béréchit. Ils se succèdent depuis Babel. Babel, Paras. Paras, il est entre les deux, puisque on était en dehors du pays, mais aussi sous la domination des Perses pendant 34 ans, à l'époque du Beit Rishon. Les Perses, ils ont été battus par les Grecs, et ensuite, nous, on appelle ça Galout Yavan, qui dure 180 ans, Malchut Yavan Bifnei Abayit, Meaushmonim Shana, ça veut dire que pendant les 180 ans durant lesquels le Beit Hamikdash il est déconstruit, mais que en Eretz Israël, qui avait le pouvoir, eh ben, c'était les Grecs, on considère ça comme une situation d'exil. Évidemment qu'il y a des contacts, évidemment que cette période elle est aussi très porteuse et très féconde, puisque Shimon HaTzadik, c'est lui qui a rencontré Alexandre. Eh bien, le successeur de Shimon HaTzadik, il a déjà un nom grec qui s'appelle Antignos. Donc, évidemment qu'il y a un contact et il y a une influence. Maintenant, toute la question, elle est de savoir est-ce qu'on se noie là-dedans, est-ce qu'on se perd là-dedans, ou bien pas du tout. On fait comme un Israélite français qui se sert du français, de la culture française, pour dire sa Torah, pour dire son judaïsme. Eh bien, ça pouvait tout à fait être le cas à l'époque des Grecs. On peut utiliser le grec pour dire la Torah, mais on peut aussi, au passage, devenir un juif hellénisé. Et la tentation d'être un juif hellénisé, elle est encore plus forte quand on est Cohen. Que les juifs hellénisés, par excellence, c'était des Kohanim véreux. Pourri. Et ce que la Gemara dit, c'est que sur 420 ans de durée, le deuxième temple, il y a eu plus que 300 grands prêtres. Ça veut dire qu'il y a eu une succession des grands prêtres qui n'étaient pas des grands prêtres qui se succédaient par la valeur, mais juste par la volonté de pouvoir, l'argent et cette sorte de choses, un pouvoir complètement temporel.
Mais alors, vous avez l'air de dire, je m'excuse, j'ajoute encore une précision, de dire qu'il y a une transmission qui s'est faite par la branche, par le monde arabe, en somme, le monde musulman, et qui serait différente alors de cette soumission à une domination par les élites sacerdotales ou politiques. Hein, quelle serait cette transmission alors?
La philosophie qui est passée dans la langue arabe, elle n'est pas la philosophie qui est la parole tant attendue et tant respectée et qui a une telle aura. La philosophie est une des manières de parler qui existe à cette époque-là. Mais pour la civilisation qui a été construite par le monde musulman, par la langue arabe,
le problème religieux, il est au centre de la réflexion, et donc la référence au texte religieux, elle est centrale. La philosophie, elle est éventuellement un élément qui permet de sonder et de se saisir, mais de la tradition dans ce qu'elle comporte de traditionnel. Et en cela, nous, on a complètement pris la suite de cet exercice-là en le traduisant dans des problématiques qui nous étaient propres. Et le premier qui a ouvert ça, c'était Rabbi Saadia Gaon.
Peut-être Nathalie Dubas. Parenthèse sur tout ce qui a été dit sur cet échange.
Oui, alors effectivement, beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'on a, on a pas fini. Hein. Enfin, c'est un sujet qui est infini. Ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est que plus on étudie la sagesse et la philosophie grecque, plus on trouve de choses qui nous ressemblent, et plus on a du mal à trouver les différences avec la tradition juive. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Après, je ne sais pas comment conclure tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, mais simplement l'idée que peut-être, enfin de toute façon, ces débats ne sont pas terminés, et il y a peut-être tout simplement peut-être un peu de grec en nous, et on essaye de comprendre cela et de trouver quelque chose pour habiller tout cela, mais je pense que le débat est complètement ouvert. Après, les influences des civilisations sur les juifs, il y en a toujours eu et il y en aura toujours et ça continuera. Je pense c'est difficile de dire qu'il n'y en a pas. Tout le sujet, c'est comment on les aborde et ce qu'on en fait. Parce que ce que je disais, bon, alors effectivement, c'est dans ce livre d'histoire, c'est que pendant les 200 ans qui ont suivi le retour des juifs de Babel, sous la conduite de Ezra puis Néhémia, il y a eu des influences de la civilisation perse, mais ça s'est fait lentement, en douceur. Les juifs vivaient dans une relative autarcie, donc ils ont eu le temps de digérer un certain nombre d'apports culturels et d'influences et de les intégrer aux traditions pour en faire quelque chose qui soit digeste et compatible avec la tradition. La confrontation avec la culture grecque a été beaucoup plus rapide, violente à un moment, et surtout beaucoup plus rapide et avec beaucoup plus d'éléments. Et c'est peut-être ça qui a créé toute cette difficulté de ce face-à-face, et qu'on n'a pas fini de gérer qu'est-ce qu'il y a de grec en nous, qu'est-ce qu'on retient de cette, qu'est-ce qu'on peut garder de cette civilisation, en quoi ça nous... On est différents, mais en même temps, il y a tellement de choses qui nous ressemblent. Donc, c'est peut-être parce que il y a une telle brillance de cette civilisation qu'on a du mal. On a du mal à y voir clair par rapport à ce que nous apportons. C'est peut-être. Il y a quelques exemples voilà, que j'ai cités, mais effectivement, quand on creuse, on voit que ce n'est pas aussi simple. Mais je pense qu'il y a des choses à détricoter finement. Pour comprendre effectivement par essence où se situent les différences et est-ce qu'il y a des points qui sont digestes dans la tradition juive et là où on est en totale divergence. Mais la question du temps, à mon avis, est quand même une piste intéressante d'analyse des écarts entre les deux civilisations.
J'ai une dernière question de David Frost. Notamment en m'appuyant sur le Rav Yitzhak Kuttner que vous avez mentionné, et qui parle en fait de cette question du manque de sources que Rav Yonah Bitbola vient de dire, qu'il n'est pas en coïncidence. En fait, la Gemara en Yoma Kaftet, je crois, dit que Esther, elle est Nimshela, elle est comparée à l'aube. Parce que Esther, comme l'aube c'est la fin de la nuit, Esther c'est la fin des miracles. Et la Gemara justement pose ensuite la question comment c'est possible de dire ça alors qu'il y a Hanouka, qui c'est un miracle que historiquement a eu lieu après Esther, et quand même comment est-ce qu'on ne le mentionne pas. Et justement le Rav Yonah s'appuie là-dessus pour dire que... Pardon, la réponse que la Gemara même elle donne est que non, on parle ici de Nissim Shenitnu Likatev, de miracles qui ont été comment dire ça, qui peuvent être écrits. Alors que l'histoire de Hanouka, c'est foncièrement, apparemment, selon ce que dit la Gemara, quelque chose qui ne peut pas être écrit. Et c'est peut-être ça, entre autres, la raison pour laquelle on n'a pas ni le Sefer Maccabim, le livre de Maccabée, comme un livre sacré, ni aucun autre écrit, en fait, comme un écrit sur lequel on base l'histoire de Hanouka, et même la lecture ou une lecture pour la fête, à la différence de toutes les autres fêtes. Et donc, dire à Wuttner là-dessus que Hanouka, elle a c'est par excellence la fête de la Torah orale et non pas de la Torah écrite. Et que ce qu'on pour répondre un peu à la question que vous avez posée avant sur quel est le point précis pour le Rav Wuttner, c'est ça exactement le point précis. Il cite un midrash dans lequel c'est marqué que la Torah écrite au futur elle sera traduite, elle sera l'héritage de toutes les nations. Alors que la seule chose qui va rester toujours intime et pour le peuple juif seul, c'est la Torah orale, justement. Et peut-être c'est ça, justement, peut-être une, peut-être pas la différence entre ce qu'il y a à célébrer, à préserver dans l'histoire de Hanouka, dans la culture juive, un opposé à la question, à la culture grecque. Qui est l'héritage justement de quelque chose d'oral, de quelque chose de, qui ne peut pas non itan l'ekatev, qui ne peut pas être écrit. Et quoi serait ça? C'est bien sûr une autre question. Plus ou moins tous les livres de Rav Wuttner sur Hanouka, le Paradis Trek sur Hanouka, c'est un essai pour essayer d'explorer ça, de comprendre ça, mais qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être écrit et que c'est justement de ça qu'il s'agit Hanouka. Ça me fait penser justement à une conférence que j'ai entendue à l'université hébraïque il y a quelques années d'un prof qui disait que finalement peut-être c'est ça la particularité la plus grande de la fête de Hanouka, que chacun une fois qu'il n'a pas vraiment un texte ou un contenu très spécifique, que chacun fait de Hanouka ce qu'il veut. C'est-à-dire, les libéraux vont dire c'est la fête des libéraux par excellence. Les haredim vont dire c'est la fête haredi par excellence. Les sionistes vont dire c'est la fête sioniste par excellence. Et c'est vrai ça, que Hanouka, tout le monde s'appuie pour dire les Maccabim c'est nous, et les Grecs sont les autres. Mais bon. Oui, voilà. La richesse de la Torah orale.
Et l'oral, en tout cas, l'oral, parce que quand on raconte la Torah orale a été mise à l'écrit parce qu'il fallait la préserver, parce que la transmission risquait de ne plus se faire, ça a été un déchirement. Ça a été vraiment une quelque chose de fini, quelque chose de limité, que les Rachamim se sont imposés par la force des choses, contraints et forcés, parce que sinon tout se perdait. Mais ça a été une perte, la perte justement de cette richesse de l'oralité qui autorise toutes les digressions possibles et toutes les spéculations intellectuelles, et il a fallu consigner tout ça de façon hermétique dans l'écrit. C'est une espèce de violence qui a été faite à l'oral que de mettre à l'écrit. Et peut-être, ouais, comme vous dites, que...
Comparable
à la Septante, puisqu'on a figé la chose, on a figé le texte. L'oral, c'est cette espèce d'infini de la parole. Et peut-être que derrière cette orale, cette parole, cet infini, c'est la parole divine qui est derrière, c'est la présence de Dieu qui est derrière, et c'est peut-être pour ça que voilà, il y a tout ce symbole, oui, effectivement, peut illustrer, ouais, ce qu'on peut retenir, ouais, de Hanouka, effectivement.
Eh ben, merci énormément, Nathalie Vivas, pour ce remarquable exposé. Un grand merci à tous les participants pour un jour de grève. Franchement, vous avez été super nombreux. Merci d'être venus. Même de Bruxelles, un jour de grève pour repartir demain à 6h du matin. Allez, non, merci à tout le monde. Et on se retrouve avec ces questions ouvertes dimanche 12 janvier à 16h. Et ce sera Gérard Bensussan qui interviendra de l'Université de Strasbourg. Alors, on est en train de discuter de la thématique, mais ce sera certainement sur une étude comparée d'un texte de Rosenzweig sur la politique juive, et probablement qu'un des participants au séminaire tentera d'apporter aussi un texte sur le morceau choisi par Ben Susan. Personne de ce séminaire tentera d'apporter un texte de la tradition. On aurait une étude plus ou moins comparée. En tout cas, mille merci Nathalie pour cet exposé.
Merci Alexandre, merci à tous.
La photo. Il faut aller vers le radiateur.
Non, la visée du radiateur. Il faut sauvegarder.
Petite 2 minutes pause pub. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande l'achat du livre Le commentaire sur les parachutes de Nathalie Vives, qui est coécrit avec Nina Bitton, Les éclats du rocher, aux éditions Lishma. Vous verrez, c'est un trésor sur la parachute. Ouais. Il faut que tu demandes d'abord à 34.